bénissons le nom du Seigneur pour ces instants qu'il nous a accordés, pour que nous puissions venir ici pour parler de sa part. Je m'appelle Steve, je travaille à l'hôpital Bethesda et je suis membre de la paroisse CBK Gomaville où je sers le Seigneur comme ancien de l'Église. Il nous a été demandé pour le compte de la semaine de la santé de venir ici depuis le début de cette semaine et de clôturer une série d'enseignements sur la question de la santé. En principe, cette semaine, nous la célébrons à la fin du mois de novembre. Mais à cause de la situation que nous sommes en train de traverser ces derniers temps, il a plu à nos autorités de l'Église de décaler, n'est-ce pas, cette semaine et les ramener à ce mois d'août. C'est comme ça que nous avons commencé cette série d'enseignements le lundi dernier et aujourd'hui, pratiquement, nous allons clôturer la semaine de la santé. Alors, nous sommes en train de parler depuis le début de la semaine du vrai disciple face aux défis de la santé. En effet, cette question de la santé nous préoccupe pratiquement nous tous. À voir juste comment nous sommes habillés, la façon dont nos visages sont couverts, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas longtemps que nous venions à l'église sans que nous ne nous couvrions le visage de la manière dont nous le faisons maintenant. Et je sais que c'est difficile. Nous sommes en train de respirer difficilement. Et chacun, lorsque nous entrons ici, nous nous disons quand est-ce que nous allons sortir d'ici pour que j'enlève ce masque au visage. Effectivement, cette situation nous préoccupe nous tous, ça nous fait peur, mais ce matin, nous voulons apporter un message d'espoir. Le message d'espoir, c'est que cette situation, quel que soit le temps que ça va prendre, ça va passer. Ça va passer pourquoi? Parce que le Seigneur sait que nous sommes en train de vivre cette situation. Et il sait que les personnes sont malades. Et il ne va pas permettre à ce que nous puissions demeurer tous malades pendant longtemps parce qu'il y a un service que nous devons lui rendre. C'est pourquoi nous avons l'espoir, nous qui sommes sauvés, que Dieu va mettre fin à cette situation. Alors, l'histoire de la santé, ça ne date pas d'aujourd'hui. La question des maladies, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà dans l'ancien temps, on a entendu parler des maladies et le passage que nous avons lu dans le livre de Lévitique, chapitre 13, ça nous montre effectivement que dans les temps, il y a eu des personnes qui ont aussi fait face à la maladie. Alors, la situation a continué comme ça. Les gens n'avaient rien à faire, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de médicaments appropriés. Et très souvent, on a pensé que ce n'était qu'une punition qui venait de Dieu. Et les gens ont évolué comme ça au fil du temps. Et en 1948, les Nations Unies ont décidé de créer l'Organisation Mondiale de la Santé. Et cette Organisation Mondiale de la Santé a été créée dans le but de réfléchir sur les questions de la santé qui dépassaient les différentes nations. Alors, plusieurs maladies ont été surveillées pendant ce temps, notamment la tuberculose qui a fait beaucoup de victimes. Il y avait la peste qui faisait aussi beaucoup de victimes. Il y avait les choléras qui faisaient aussi beaucoup de victimes. Et nous constatons aussi que ces maladies ont été surveillés et il y a des solutions qui ont commencé à être proposées pour arriver à gérer ces maladies dans le monde. Alors, les catastrophes sanitaires ne sont pas une nouveauté. Si nous lisons dans les livres d'Exode, chapitre 7, chapitre 7, du 1er jusqu'au 12e verset, nous allons voir qu'il y a eu 10 fléaux qui ont été infligés à Pharaon et à son peuple à cause de son cœur qui était dur lorsque Dieu a envoyé Moïse auprès de lui. Et parmi les fléaux, il y avait aussi des maladies. Et les maladies qui arrivaient à toucher un grand nombre de personnes à la fois, et ces maladies étaient pratiquement des maladies épidémiques qui touchent un grand nombre de personnes à la fois. Et de nombreuses maladies, notamment citées dans la Bible, comme la peste, dans le Deutéronome 28, dans le Deutéronome, il y a la lèpre aussi dans le Deutéronome 24, montre que la survenue des maladies dans le monde est bien une vieille histoire. Alors, de nos jours, nous assistons aussi à de nombreuses maladies à caractère épidémique et voire même pandémique, ça signifie qu'ils touchent à la fois le monde entier, comme le Covid-19. Alors, dans toutes ces situations, un bon disciple de Jésus-Christ doit rester ferme et inébranlable dans sa marche avec Christ. Alors, nous avons certains objectifs que nous avons voulu bien atteindre au courant de cette semaine que nous terminons aujourd'hui, parmi lesquels que chacun arrive à se rendre compte que sa santé est celle des autres et sa propre responsabilité. Nous devons nous rassurer que nous disposons d'une information vraie sur la crise sanitaire qui est en cours, donc la COVID-19. Nous devons aussi arriver à établir des stratégies pour protéger les personnes contre toutes sortes de maladies à caractère épidémique. Toujours parmi nos objectifs, avoir foi et espérance dans le Seigneur en temps de crise comme maintenant. Nous avons aussi voulu encourager le peuple de Dieu à respecter les principes de santé lors d'une pandémie, et plus précisément maintenant la pandémie à COVID-19. Alors, le premier jour, nous avons parlé de la responsabilité du disciple face à sa santé, mais aussi la santé des autres. Alors ici, ce que nous allons retenir, c'est que lorsqu'une personne tombe malade, il est d'abord de sa propre responsabilité de considérer d'aller se faire consulter. En second lieu, si lui-même il ne peut pas aller à l'hôpital pour se faire consulter, alors c'est son entourage et dans un premier temps c'est sa famille qui doit l'encourager à arriver à l'hôpital. Au-delà de ça, il y a aussi la responsabilité de l'Église. Si l'un de nos membres, nous savons que cette personne-là présente certains signes de maladie actuellement, cette personne-là, nous devons l'encourager comme l'Église à aller à l'hôpital. Alors, lorsque cette personne-là n'est pas en mesure de se rendre lui-même, parfois, il y a beaucoup de raisons. C'est vrai, il y a de l'argent qui peut lui manquer, mais nous devons trouver le moyen de l'amener à l'hôpital parce que sinon, cette personne va constituer un danger pour nous tous. Alors, nous devons faire très attention, nous avons dit, n'est-ce pas, de dissimuler la maladie. Il y a des personnes qui sont allées à l'hôpital, on leur a dit qu'ils sont malades, mais ils font une forme qui est bénigne de la maladie, ça signifie une forme qui n'est pas grave. Alors on lui demande, tu vas aller prendre ces médicaments à la maison, mais la personne décide de faire quoi? Elle se promène. Elle sait qu'elle est malade, mais elle se promène parmi les gens. Elle vient même ici à l'église. Et elle expose de ses faits tout le monde. Même si la personne a porté son masque, vous ne savez pas comment est-ce que cette personne est en train de s'asseoir là à côté de vous. Il y a des choses que les gens font. Si nous n'arrivons pas à désinfecter toutes nos chaises sur lesquelles nous sommes assises aujourd'hui, il y a des gens qui laissent leurs sécrétions sur ces chaises-là. Alors, c'est une manière pratiquement criminelle d'agir parce que nous savons que nous avons des problèmes, mais nous voulons quand même venir là où il y a les gens. Nous allons au marché, nous voyons ces personnes, ils se promènent. Peut-être qu'à leur travail, on leur a dit qu'allez vous confiner parce que vous avez des traitements à prendre. Il ne vient pas au travail, mais vous le voyez circuler dans la ville. Ça, c'est une attitude irresponsable que nous avons bien voulu décourager à nos membres. Alors, la deuxième chose dont nous en avons parlé, c'était l'identification de la maladie. L'identification de la maladie passe par plusieurs étapes. D'abord, la connaissance des signes et symptômes de cette maladie. Lorsqu'on connaît ces signes et symptômes, nous allons faire un effort d'aller à l'hôpital pour que nous puissions identifier la maladie. Alors, cet exercice, parfois, pour certaines maladies, ça demande de l'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que quant à ce qui est de la pandémie actuelle, si vous avez certains signes, notamment vous avez des maux de tête, vous avez des courbatures, vous avez des articulations qui font mal, vous êtes en train d'éternuer anormalement, vous avez une toux qui persiste, vous avez peut-être une fièvre mais qui n'est pas très élevée, en présence de ces signes, vous devez déjà vous dire que non, il y a un problème. Alors, vous devez aller à l'hôpital, même si vous n'avez pas d'argent. Ça, il faut que les gens puissent les comprendre. Quant à ce qui est de la pandémie actuelle, avec ces signes, vous venez à l'hôpital, il y a un checklist que l'on va remplir, et si vous répondez à la définition des cas, il y a les examens qui vont être faits pour vous gratuitement. Alors, il y a certains hôpitaux, bien entendu, au niveau de la ville, qui nous aident à faire cette identification de la maladie. Notamment l'hôpital provincial, l'hôpital de la charité maternelle, Île Africa, mais aussi notre hôpital général de référence de Virunga. À l'hôpital Bethesda, nous ne pouvons aider que les gens pour un test rapide, en attendant ces résultats qui arrivent généralement après 48 heures. Cependant, ce test sera payant là-bas. Alors, très souvent, les pays ont des difficultés d'avoir le moyen de diagnostic, mais là où nous pouvons trouver ces moyens de diagnostic, nous venons de citer. Donc, nous n'avons plus de raison de dire que nous allons rester à la maison sans que nous n'allions à l'hôpital pour se faire dépister. Alors après cela, nous avons parlé de certaines méthodes qui sont utilisées dans la Bible pour lutter contre les maladies contagieuses. Parmi ces méthodes, nous avons parlé de la quarantaine. La quarantaine n'est rien de grave. Ça signifie que lorsque on suspecte une maladie, comme nous avons lu ça dans le livre Lévitique, lorsqu'on suspecte une maladie, on se dit que ce genre de signes ici, si ça continue, il y a d'autres qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions mettre ces malades-là de côté, nous les surveillons. Là, on n'est pas encore sûr que vous êtes malade. C'est comme ça qu'on va vous mettre en quarantaine. Maintenant, lorsque on a posé le diagnostic, c'est-à-dire qu'on a identifié que vous êtes malade, ça signifie que les tests ont montré que vous êtes malade, à ce moment-là, vous allez être isolé. En médecine, nous utilisons le terme isolement du malade. Mais là où nous avons lu dans le livre de Lévitique, il y avait encore un terme qui était plus grave. C'était l'exclusion de la personne qui est concernée par la lèpre. Mais ici, nous isolons le malade. Alors, lorsqu'on vous isole, ça signifie qu'on a établi que vous êtes malade. Et alors, on décide de commencer un traitement par rapport à cette maladie. Et ici, notamment, c'est le COVID-19. On va vous mettre en isolement et on vous donne le traitement. Alors, très souvent, les gens ont une mauvaise perception de la quarantaine et de l'isolement. Les gens pensent qu'ils sont stigmatisés lorsqu'on les a mis en isolement. Pour la simple raison, parce que là où on isole ces malades-là, à principe, ce sont des endroits qui sont construits pour juste la période-là de la maladie. Alors, ces endroits peuvent être moins confortables que d'habitude. Et pourquoi? Parce que aussi, nous essayons de nous rassurer que nous faisons quelque chose vite, vite, le temps que la maladie passe. Si la maladie passait, on peut même détruire cet endroit. Alors, ne vous sentez pas discriminé, ne vous sentez pas mal lorsque on vous a mis en isolement. Parce que, à principe, c'est parce qu'on vous aime qu'on vous a mis en isolement. Pourquoi, vous allez vous dire, pourquoi je suis en isolement seul et que je n'ai pas droit de visite? Et bien sûr, c'est parce que nous ne voulons pas que vous puissiez contracter d'autres formes de la maladie. Vous avez entendu de l'histoire des différents variants de la maladie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre variant à vous, mais lorsque vous vous promenez ou vous êtes en contact avec d'autres personnes, vous allez aussi contracter d'autres variants que vous n'en avez pas. Peut-être que ce que vous avez n'allait pas vous tuer, mais parce que vous êtes entré en contact avec d'autres variants, étant déjà fragilisé par la maladie, cela peut vous emporter vite. Voilà pourquoi vous-même, d'abord, cet isolement est très important pour vous. En second lieu, cet isolement est aussi important pour le reste de la communauté. Parce que les gens qui viennent vous voir, lorsqu'ils sont en contact avec vous, eux aussi, ils peuvent contracter la maladie. Même si vous faites un effort d'être en masque, vous êtes allé voir la personne, vous avez bien porté votre masque, mais en sortant de là, vous n'allez peut-être pas vous laver les mains tout de suite. Vous aviez peut-être mis votre main ou votre coude sur quelque chose, et en rentrant, votre coude peut gratter. Et vous pouvez toucher là-bas et ramener ça dans la bouche, dans les yeux, n'est-ce pas? Et en fin de compte, vous contractez la maladie. Alors c'est très important que l'on puisse comprendre que l'isolement, c'est une manifestation, c'est une preuve qu'on vous aime. Voilà pourquoi on vous met à côté. Alors, nous avons aussi parlé de l'environnement et la survenue des épidémies. La maladie dont il est question aujourd'hui, le COVID-19, le monde scientifique ne l'a pas encore bien maîtrisé. Il se trouve que cette maladie se retrouve aussi dans l'environnement. Ça signifie que les objets que la personne malade a utilisés sont aussi contaminés. Ça signifie que les vêtements même du malade sont aussi contaminés. D'ailleurs, les vêtements là vont rester dangereux pour l'entourage jusqu'à une semaine. Ça signifie que notre environnement est aussi dangereux pour nous si nous ne considérons pas de l'assainir. Nous pouvons bien vouloir entrer ici avec nos masques, dans le bus avec nos masques, mais lorsque vos yeux vont gratter et que vous avez touché à la portière de la voiture et que quelqu'un d'autre en avait aussi touché il y a quelque temps, juste ce geste-là simple fait en sorte que vous puissiez vous contaminer. C'est pourquoi on dit que à chaque fois que vous pensez que vous devez vous laver les mains, allez-y, lavez-vous les mains directement. Ne dites pas, mais je viens d'entrer ici tout de suite, comment vous me faites encore laver les mains? Non, non. Autant de fois que l'occasion se présente pour se laver les mains, n'hésitez pas de vous laver les mains. Parce que cette maladie n'est pas seulement aéroportée, mais aussi elle est manuportée. Ça signifie que nos mains peuvent arriver à nous contaminer. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que nous avons assaini notre environnement et que nous avons désinfecté au besoin notre environnement, les objets que le malade a utilisés. Heureusement, au niveau de l'hôpital, cela s'est fait, mais à la maison, il y a un défi. Alors, ce malade qui a été hospitalisé pendant une semaine ou deux semaines, il doit rentrer dans sa communauté. Ici, nous avons insisté sur le fait que lorsque quelqu'un est déclaré guéri, alors effectivement, il est guéri. Ça signifie qu'il a reçu son traitement, il a fait un test à la sortie et que la personne est déclarée guérie. Ça ne sert à rien de lui prêter des intentions en disant que non, non, est-ce que vraiment la personne là est guérie? Nous l'avons vu à l'hôpital, il allait mourir. Mais comment se fait-il qu'il est là? Est-ce que vraiment il ne peut pas me contaminer? Après une semaine qu'il ait terminé son traitement, cette personne-là, elle est comme vous qui n'êtes pas malade. Donc rien ne sert de stigmatiser la personne en croyant qu'elle reste dangereuse pour nous. Ne tombons pas aussi dans cette erreur-là, n'est-ce pas, de discriminer les malades qui viennent de terminer leur traitement. Nous devons faire attention et les recevoir parmi nous comme toute autre personne qui n'est pas malade. Alors, nous avons aussi parlé de la visite des malades. Alors, les épidémies provoquent très souvent des problèmes relationnels, souvent très profonds même entre les frères et sœurs. Alors, nous devons nous rassurer que lorsque la personne est malade et qu'on l'a mis dans un centre de traitement, nous ne devons pas nous précipiter d'aller lui rendre visite. C'est bizarre cette recommandation, mais elle est fondée. Pourquoi? Parce que nous voulons, dans la lutte contre cette maladie, d'éviter le plus possible les contacts avec le malade. Figurez-vous que lorsque vous êtes diagnostiqué positif, on recherche tous vos contacts, les gens avec qui vous avez interagi, pour que nous puissions les surveiller. Pour quelle raison? Parce que ces personnes-là, pour avoir été en contact avec vous, c'est possible qu'elles vous transmettent la maladie. Alors, c'est très important que nous puissions considérer que pendant cette période, rien ne sert d'aller visiter les malades de manière dont on les faisait avant. Les épidémies passent. Nous avons eu l'Ebola ici, on pensait que ça ne va pas se terminer. Et le jour où Ebola était entré à Goma, les gens étaient très agités. Les gens voulaient même fuir la ville. Mais Ebola, là aussi, est passé. Ça signifie que lorsque nous allons retourner à la situation normale, nous allons visiter nos malades tranquillement. Mais maintenant, il est recommandé de ne pas venir visiter les malades. D'ailleurs, les médecins qui prennent en charge ces malades, si vous les voyez de vos yeux, ça va parfois vous faire peur à cause des combinaisons qu'ils sont en train d'enfiler. Pour quelle raison? C'est pour se protéger. Et pourtant, vous n'allez pas venir voir ces malades-là en combinaison comme le font les médecins tous les jours. Mais ce que nous pouvons faire en revanche pour nos malades, nous pouvons les appeler sur téléphone ou appeler la personne qui est à côté d'elle pour qu'elle vous renseigne de l'évolution de sa maladie. Donc, point n'est besoin de se rendre à l'hôpital où les patients sont internés et on risque de s'exposer inutilement. Alors, nous savons tous une chose, que cette maladie, elle nous amène la peur. Et notre dernier sujet était effectivement vaincre la peur pendant une crise sanitaire. Qu'est-ce qui nous entraîne dans la peur? Qu'est-ce qui nous provoque cette peur-là? Très souvent, la peur arrive lorsque nous savons que cette personne-là est atteinte d'une maladie. Et précisément maintenant, c'est le COVID-19. Lorsqu'on sait que telle personne est affectée, on a peur. Et on se dit, est-ce que cette personne-là ne va pas mourir? Alors, les données, les informations que nous avons, c'est que plusieurs personnes sont en train de mourir. Et effectivement, ça nous fait peur. Et très souvent, cette peur que nous avons devient très dangereuse pour nous. Pourquoi? Parce que elle nous empêche de réfléchir et elle nous empêche aussi d'avoir des réflexes qui sont très normaux pour la survie. On oublie qu'il y a des gestes barrières qu'on nous a demandé de considérer, tout simplement parce qu'on a peur. On a aussi peur parce qu'on pense que cette maladie-là est fabriquée. Il y a des gens qui pensent même à des théories, des complots. On dit, est-ce que cette histoire-là n'est pas un complot? Quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser, nous, comme enfants de Dieu, nous avons l'espoir que notre Dieu connaît cette situation. Notre Dieu, il connaît que les personnes qui sont malades ne les servent pas. Notre Dieu connaît que les morts ne les servent pas. Ce sont des personnes à bonne santé vivante qui sont utiles pour l'avancement de l'Évangile. C'est pourquoi, juste avec cet espoir-là, nous savons que cette histoire va passer. Ça pourra peut-être emporter ceux-là qui seront emportés, mais au moins, ça prendra fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons respecter les stratégies de réponse sanitaire. Lorsqu'une épidémie survient, les gens ont besoin d'abord de savoir les voies de contamination de la maladie. Et nous avons dit que lorsque nous ne nous couvrons pas le nez et la bouche, nous pouvons être en contact avec les sécrétions de nos voisins et nous pouvons attraper la maladie. Nous pouvons toucher des objets qui sont contaminés et en retour, nous en serons aussi contaminés. Nous avons besoin aussi de savoir comment est-ce que nous allons nous protéger. On a énuméré les gestes barrières et on chante pratiquement ces gestes barrières tous les jours dans des radios, dans la télévision. Mais parmi ces gestes barrières, parce que je comprends ici tout de suite que tout le monde a compris la plupart de ces gestes barrières, juste en voyant combien de masques sont ici. Il n'y a personne pratiquement qui est entré ici sans porter son masque. Ça c'est déjà bon. Mais nous insistons sur un fait, c'est le lavage de mains. Parce que ça, les gens oublient. Nous allons toucher les chaises ici. Nous allons sortir comme ça. Et on ne va pas se laver les mains. On va partir. J'ai observé ça ici, quand on était la semaine. Les gens partaient, ils ne se lavaient pas les mains. Mais en entrant, certains se sont lavés les mains. Donc, nous devons faire attention et pour ne pas tomber dans la maladie comme ça. Alors, le fait d'être aimé par Dieu est un facteur très important dans la lutte contre la peur. Si nous savons que Dieu nous aime, en tout cas déjà, nous avons de l'espérance qu'il va nous protéger. Nous savons qu'il sera là notre soutien. Cet amour qui nous entoure et sa main que nous savons est toujours plus proche de nous pour nous protéger nous fera traverser cette pandémie et nous en sortirons vainqueurs. Cela ne veut pas dire que le mal ne va pas nous arriver. Mais certes, le Seigneur nous en délivrera et nous serons témoins de son amour. Paul, lui aussi, a traversé de nombreuses tragédies telles que la famine, l'épée, les dangers, et lui a ressenti la chaleur de l'amour de Dieu dans chaque situation qu'il a traversée. Alors, en conclusion, un bon disciple doit apprendre à éviter la panique dans cette circonstance qu'on est en train de traverser maintenant, afin d'aider les autres. Si nous paniquons, quelqu'un qui panique ne peut pas aider les autres. Il devrait également s'abstenir d'attiser des rumeurs qui sont non fondées, qui du reste ne font que irriter les gens et font oublier aux gens les gestes simples qu'ils devaient poser pour se protéger contre cette maladie. Alors, c'est ce message d'espoir que nous avons bien voulu apporter au courant de cette semaine. Si nous avons besoin des informations, allons chercher les informations par rapport à cette maladie auprès des personnes qui sont en train de soigner la maladie. Nous pouvons avoir nos remèdes qui sont faits maison. Ne vulgarisons pas des connaissances qui ne sont pas fondées et qui n'ont pas de preuves scientifiques. Informons-nous auprès de ceux-là qui ont été formés pour la prise en charge de ces maladies. C'est vrai que tout le monde pense qu'il peut aller visiter n'importe qui. Les gens parlent des différents remèdes, mais nous, ce que nous nous disons, allez vous informer dans nos hôpitaux qui sont là pour nous prendre en charge. Et continuons à garder l'espoir que quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit la durée que ça va prendre, ce qui est vrai, c'est que cette maladie va passer et nous allons en sortir tous vainqueurs et que Dieu nous bénisse.